Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Dans l'histoire du jazz afro-américain, il y a les grandes figures universelles, Duke Ellington, Count Basie, Miles Davis, John Coltrane, Charlie Parker ou Dizzy Gillespie, mais il ne faut pas oublier tous ceux qui ont contribué à l'évolution progressive de l'épopée des musiques noires. Souvent virtuoses, ces musiciens n'ont pas connu la renommée internationale, mais ont épousé la destinée des icônes d'antan. Ces hommes de l'ombre, qu'on appelait sidemen ou accompagnateurs, ont vécu de près l'aventure musicale des géants d'autrefois. Plutôt que de vous narrer la vie trépidante des étoiles du XXe siècle, nous allons cette semaine nous intéresser à tous ces artisans du swing qui discrètement et humblement ont participé aux révolutions culturelles de la Grande Amérique et observé de l'intérieur les soubresauts de la communauté noire. Vous écoutez actuellement le grand orchestre du trompettiste Dizzy Gillespie, qui fut l'un des pionniers du jazz en couleur, puisqu'il avait pour habitude d'accueillir dans son équipe des instrumentistes de tous horizons. De toute façon, par définition, les big bands avaient pour mission de donner un coup de pouce aux jeunes musiciens dont le talent précoce méritait une attention toute particulière. C'est ainsi que de nombreux anonymes se sont révélés au sein des grandes formations. Le saxophoniste Cecil Payne, aujourd'hui disparu, avait 24 ans lorsqu'il a rencontré son idole, Dizzy Gillespie.
The best part of my career that I liked the best was when I was with Dizzy Gillespie. But see what happened, how I got into Dizzy's band was.
Je considère comme la meilleure période de ma carrière l'époque passée avec Dizzy Gillespie. Un jour, Max Roach m'a appelé pour une séance d'enregistrement avec J.J. Johnson et Bud Powell. Après avoir terminé, je suis allé dans un club de la 52e rue sur leur invitation. Là se trouvait le big band de Roy Eldridge, qui cherchait des musiciens. Je suis allé à la répétition, j'ai discuté avec Roy Eldridge, qui m'a dit « Désolé, j'ai déjà un sax alto ». J'avais donc raté l'occasion, mais je suis tout de même resté pour assister à la répétition et voir les grands musiciens. Après quoi, je me suis mêlé à eux pour les écouter parler musique, et là j'ai entendu Roy Eldridge dire « Où pouvons-nous trouver un sax bariton ?» J'avais chez moi cet instrument que j'utilisais parfois quand je jouais dans les orchestres du coin. J'ai aussitôt réagi, j'ai un sax bariton. Bon, eh bien, viens avec demain pour la répétition. J'ai joué 2 semaines avec Roy Eldridge et le dernier jour, Dizzy Gillespie est venu voir Roy Eldridge au club et m'a entendu jouer. Il m'a aussitôt proposé de rejoindre son orchestre car Bill Graham, son saxophoniste, le quittait. C'est ainsi que j'ai rejoint l'orchestre de Dizzy Gillespie en 1946.
Thank you.
New York, 1946. Cecil Payne joue une musique exigeante, mais tellement jouissive, aux côtés du légendaire Dizzy Gillespie. Il faut dire qu'à cette époque, le jazz est en pleine effervescence. La soul music n'existe pas encore, le rock'n'roll encore moins. Seuls les grands ensembles de 15 à 20 musiciens font danser la capitale du jazz, New York City. Tous ces brillants artistes noirs américains se donnent rendez-vous dans la 52e rue, où l'agitation populaire festive anime les nuits de Manhattan. Le saxophoniste Al Singer, né à Tulsa dans l'Oklahoma en 1919, fut époustouflé par la vigueur de ce quartier new-yorkais qu'il découvrait à 25 ans.
And I have some very wonderful memories of the first time I met Coleman Hawkins or Lester Young.
Je me souviens très bien de ma rencontre avec Coleman Hawkins, Lester Young, de mon arrivée à New York, de mes balades sur la 52e rue, où l'on comptait 8 clubs de jazz, où se produisaient les meilleurs musiciens de l'époque. Certains venaient juste prendre un verre ou bavarder. Je me souviens du cœur de New York, Broadway, la capitale des big bands. Benny Goodman, Woody Shaw, Charlie Burnett, Jimmy Lunceford, Lucky Millender. C'était une époque formidable. Il n'y avait pas de festival à l'époque. On se sentait proche des musiciens. Ils venaient faire danser le public. Aujourd'hui, c'est un spectacle et le public est avant tout auditeur. C'est bien différent.
Now, so many times, it's a spectacle and people are just listening.
Comme nombre de ses homologues sidemen ou musiciens d'accompagnement, Al Singer fait preuve d'une modestie qui l'honore. Sans fanfaronner, ce vieux monsieur vous raconte ses prestigieuses collaborations avec Duke Ellington, Ray Charles, Dinah Washington ou Big Joe Turner. Et bien qu'il pourrait se vanter d'avoir connu personnellement ces musiciens légendaires, il se contente d'évoquer leurs noms avec respect et déférence. J'avais des idoles. J'étais très proche de Roy Eldridge. Je vénérais cet homme. J'aimais aussi Johnny Hodges, Coleman Hawkins, Charles Mingus, Dizzy Gillespie, Max Roach. Je l'ai connu en 1944. À l'époque, j'habitais Brooklyn. Tous ces gens sont mes idoles, mes dieux. J'adorais leur musique. J'ai été un bon ami de Ben Webster. Il venait chez moi à New York. Il jouait avec mes enfants. Mais à mes yeux, il restait Ben Webster, mon idole. J'avais la même impression avec Dizzy Gillespie ou Kenny Clarke. Même si je travaillais avec eux, même si j'avais vécu aux côtés de Kenny Clarke, pour moi, il était le grand Kenny Clarke.
Even though Kenny and I lived here together and we worked together, it was still a relationship. Well, he is Kenny Clarke.
Avoir aujourd'hui la possibilité de converser avec ces témoins privilégiés est une chance et un honneur. Bien qu'ils furent souvent considérés comme des seconds couteaux dans l'histoire du jazz, ce qui est somme toute fort contestable, leurs souvenirs entretiennent notre connaissance et notre compréhension d'une époque lointaine. La mémoire vive d'Al Singer nous transporte dans un passé que nous n'avons pas connu et dont il est le garant face aux historiens. Comment aurions-nous découvert les petites histoires ou anecdotes des jazzmen entre eux sans le témoignage des vétérans ? Sachant savourer le récit d'Al Singer, 95 ans, contemporain des grands chefs d'orchestre d'autrefois.
At that time, bands usually tried to get people as a replacement.
En règle générale, à l'époque, les leaders faisaient appel à des musiciens qui correspondaient au style de leurs orchestres respectifs. Exemple, lorsque Count Basie fit appel à Buddy Tate, il aurait pu utiliser un des nombreux saxophonistes présents à New York, mais il préféra un musicien originaire du Texas parce qu'il jouait le style de jazz propre à Count Basie. Être un sideman était une bonne chose. J'ai ainsi pu jouer avec Roy Eldridge, Don Byas, Earl Bostic, originaire comme moi de Tulsa, Duke Ellington. Et puis, je n'ai jamais eu aucun souci à me faire. Je me contentais d'aller bosser. Quand on est le leader, il faut prendre en charge la promotion, les choix du musicien, les contrats d'enregistrement. Il faut savoir être diplomate avec ses acolytes, le public. C'est très difficile. On ne devient pas un bon leader si on n'a pas été un bon sideman. Pour donner des ordres, il faut savoir les recevoir.
To give orders, you have to learn to take orders.
Si New York a été et reste la capitale du jazz à l'échelle planétaire, d'autres villes américaines ont été des viviers de talents indéniables. D'abord la Nouvelle-Orléans, où naquit Louis Armstrong, mais aussi Kansas City, le berceau de Charlie Parker, ou Chicago, patrie du saxophoniste Von Freeman, autre virtuose sous-estimé qui profita du bouillonnement artistique de sa ville natale pour se faire un nom au contact des notoriétés de passage.
When I first got out of the service, I got out in 46. I was in service from 42 to 46.
Entre 1942 et 1946, j'étais dans la marine, dans l'orchestre The Hill Cats. C'est là que j'ai rencontré de grands noms qui firent ensuite partie de célèbres big bands. Ce qui d'ailleurs me permit de jouer en grand orchestre pendant un an. Puis j'ai rencontré un grand impresario de l'époque. Il avait dans son écurie Bird, donc Charlie Parker, Dizzy Gillespie, et possédait un club, le Pershing Ballroom, au sud de Chicago. Il me demanda si mes frères et moi étions prêts à jouer chez lui. J'ai bien évidemment accepté, et c'est ainsi que je me suis retrouvé derrière. Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Roy Eldridge et Billie Holiday. C'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver.
April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. April in Paris, this is a feeling no one can ever reprise.
Le saxophoniste Von Freeman nous a quittés le 11 août 2012 à 89 ans. Mais une fois de plus, son témoignage inscrit le nom des virtuoses oubliées aux côtés des stars d'autrefois. Car il ne faut jamais opposer la petite et la grande histoire. Nous avons trop tendance à ne retenir que les heures glorieuses et quelques chapitres éminents de l'épopée des musiques noires. Mais le quotidien des musiciens, qu'ils soient connus ou non, était chaque jour une épreuve à une époque où la ségrégation raciale était la norme sociale. Le trompettiste Harry Sweets Edison, qui officiait dans le Count Basie Orchestra, a longtemps souffert de son statut de nègre aux États-Unis.
We used to suffer.
Vous savez, c'était dur de voyager en bus 300 jours par an, ne pas savoir où dormir en arrivant à destination, ne pas pouvoir s'arrêter dans les restaurants des États du Sud aux États-Unis, ou encore avoir peur d'aller acheter à manger dans un magasin. Les musiciens actuels n'ont pas connu cette souffrance, ils n'ont pas cette expérience. Il fallait vraiment être musicien pour supporter ces conditions et se battre pour être reconnu en tant qu'être humain. Mais quand on dépasse cette dure réalité, qu'on persévère dans ce qu'on aime, qu'on traverse tous ces obstacles, cela finit par rejaillir dans votre personnalité. Cela a permis aux anciens de construire un patrimoine pour les jeunes générations. Ils leur ont ouvert la voie au prix de nombreux sacrifices. Je ne pense pas que les jeunes d'aujourd'hui auraient supporté cela. Ils n'auraient jamais eu cette humilité.
To be humble, you know.
Harry Sweets Edison a été un pilier des orchestres de Count Basie, Duke Ellington, Nat King Cole, Oscar Peterson. Qui parle encore de lui aujourd'hui? Plus grand monde. Et pourtant, sans sa fougue et sa délicatesse mélodique à la trompette, l'humeur sonore des big bands d'alors n'aurait pas été saluée avec tant d'enthousiasme. Autre exemple, connaissez-vous Ray Dolloway? En dehors des spécialistes ou musicologues avertis, personne n'a réellement salué sa mémoire lors de sa disparition le 25 février 2012. Cet impeccable saxophoniste avait pourtant servi le répertoire de gens aussi insignifiants que Billie Holiday, Muddy Waters, Sonny Rollins, B.B. King, Aretha Franklin, Lionel Hampton et quelques dizaines d'autres. Nous avions eu le privilège de rencontrer ce brave homme au crépuscule de sa vie et il regrettait amèrement que son jazz, celui des origines, soit si peu célébré.
The music of my era. Of the contemporary Coleman Hawkins type playing.
La musique de ma génération, celle de Coleman Hawkins, personne ne la connaît réellement. Il reste quelques musiciens sur cette terre capables de jouer cette musique, notamment Scott Hamilton, qui essaye de perpétuer la tradition. Je recommande d'ailleurs vivement ces artistes. Malheureusement, l'heure est à la nouveauté et les musiciens stars aujourd'hui sont les jeunes. Les anciens comme moi ou Horace Silver sont des figures du passé. Mais viendra le temps où nous serons le joyau rarissime que l'on paiera cher pour ses services. Nous serons les seuls à pouvoir jouer comme au bon vieux temps, celui de Lester Young, Charlie Parker, Ben Webster ou Coleman Hawkins.
This is something that they didn't get a chance to hear, and we're one of the few people left that will still be able to play the old way.
Can anyone explain the thrill of a kiss? No, no, no. But when two eager lips are pressed against yours, you'll know, yes, you'll know. Can anyone explain the glow of romance? No, no, no. But when you hear the phrase, "It's you I adore," you'll know, yes, you'll know. And you will find to give love a start. Don't think with your mind, just feel with your heart. Can anyone explain the wonder of love? No, no, no. But now that you and I are sharing a sight.
L'immense Ella Fitzgerald en 1950 en compagnie de Louis Armstrong et au piano le jeune Hank Jones dont la fabuleuse épopée ne faisait que commencer. Il croisera ensuite la route de Charlie Parker, Benny Goodman, Frank Sinatra et même Marilyn Monroe puisqu'il était au piano le 19 mai 1962 lorsque la célèbre actrice improvisa un Happy Birthday Mr. President à destination de John Fitzgerald Kennedy. Comme vous le voyez, la vie des musiciens d'accompagnement épouse celle de leurs illustres partenaires ou employeurs. Il aurait donc été peu courtois de ne pas consacrer au moins une émission à ces artisans de l'ombre qui ont écrit avec autant de force que les célébrités la grande épopée des musiques noires. Nous allons d'ailleurs poursuivre cette étude de la mémoire vive du jazz dans quelques instants avec quelques héritiers de la tradition et notamment plusieurs partenaires de Count Basie dont on commémore en 2014 le 30e anniversaire de la disparition. C'est dans 3 minutes après le rappel de l'actualité. À tout de suite. Thank you.
L'épopée de musique noire.
Joe Farmer.
It don't mean a thing.
Nathalie Laporte.
If it ain't got that swing.
Jigida, kani jigi misenya, omani, kobena.
L'épopée de musique noire.
It's okay. You know, it's okay.
Oh, merci.
Le 26 avril 1984, l'un des plus importants chefs d'orchestre de l'épopée des musiques noires nous quittait à l'âge de 79 ans. Il était pianiste, était devenu l'un des rois du swing dans les années 30, il s'appelait Count Basie. 30 ans après sa disparition, nous avons décidé de saluer sa mémoire, mais aussi celle de tous ceux qui ont contribué à l'évolution du jazz au fil des décennies et qu'on appelait injustement les sidemen ou musiciens d'accompagnement. Ces virtuoses oubliées ont permis aux grandes formations de connaître le succès grâce à un esprit de famille, une volonté collégiale de proposer la meilleure musique possible. Certains d'entre eux se sont fait un nom, d'autres ont préféré la discrétion, mais leurs destinées respectives méritent d'être comptées. Tous les musiciens de l'ombre, comme on les appelait, ont connu les heures glorieuses des big bands. Tous ont servi le répertoire des grands leaders que furent Count Basie, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Charlie Parker et tant d'autres. Mais lorsqu'il fallut quitter le confort des grands orchestres pour tenter l'aventure d'une carrière solo, le défi s'avéra beaucoup plus périlleux pour ces musiciens de l'ombre. Le regretté Ray Dalloway, dont nous vous avons déjà évoqué la carrière dans cette émission, fut un saxophoniste très sollicité. Mais dès qu'il envisagea de voler de ses propres ailes, il compris que tout était à refaire.
If you're a passenger on a bus, you never even think of driving the bus. All you think about.
Quand on est passager d'un bus, on ne s'imagine pas conduire le bus. On ne pense qu'à regarder le paysage qui défile, on y prend du plaisir, on sait où on dormira le soir. Soudain, plus de chauffeur de bus. Et vous vous retrouvez seul à pouvoir prendre sa place. Vous vous demandez subitement, suis-je qualifié pour conduire le bus ? Être leader, c'est exactement la même chose. Évidemment, quelques géants résistent, Sonny Rollins ou d'autres. Je me sens donc privilégié de faire partie de cette catégorie de gens. Peut-être pourrais-je remplir une tâche importante un jour. Je considère avoir une responsabilité envers les jeunes qui n'étaient pas là à mon époque pour apprécier le talent de vrais professionnels comme Coleman Hawkins, de vrais pionniers que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui j'ai pu discuter et de qui j'ai obtenu des réponses à mes questions. Je me sens comblé d'avoir pu interroger ces personnalités qui n'hésitaient pas à vous répondre. Aujourd'hui, les jeunes sont incapables de donner des explications claires. Au milieu des années 40, une nouvelle approche du jazz apparaît. L'ère des big bands touche à sa fin et ce sont des formations plus réduites qui occupent les scènes américaines. En d'autres mots, le swing des pionniers laisse place au bebop d'une jeune génération pleine de fougue et d'entrain, mais la notion de leader ou de chef d'orchestre résiste encore à l'érosion du temps. Le batteur Art Blackie en fut le parfait exemple. Il menait à la baguette ses Jazz Messengers avec une autorité artistique héritée des origines. Son jeu bouillonnant imposait une rigueur que ses musiciens devaient suivre avec application. Le saxophoniste Benny Golson, 85 ans, fit partie de ce quintet légendaire dans les années 50 et réalisa combien il était difficile de quitter l'univers sonore imprimé par un maestro. Anecdote.
Nobody was able to swing like Art Blakey. When I left his group,
personne n'a jamais swingé comme Art Blakey. Quand j'ai quitté son groupe pour un autre batteur, je ne réussissais pas à m'adapter. La différence était trop nette, c'était terrible. J'étais sans cesse tourné vers le batteur qui ne semblait pas suivre. Freddy Hubbard a eu le même problème pour s'adapter à un autre batteur. Art Blakey donnait un son au groupe. Horace Silver avait réussi cette performance au piano, à l'aide de mélodies. Mais Art Blakey fit la même chose seulement grâce au rythme. Il instaurait un esprit particulier à son groupe. Les percussions vous arrivaient droit au cœur. Vous ne pouviez que suivre. Ce fut une bonne école. Tant de musiciens ont joué dans ce groupe, y compris un batteur, Kenny Clark, ici à Paris, au Club Saint-Germain et à l'Olympia. C'était assez spécial, mais c'était véritablement fantastique. Ils avaient le même feeling au même moment. C'était de la folie.
Because Kenny Clark, same mind like Art Blakey's swing. I was going crazy.
Si le jazz afro-américain a beaucoup évolué depuis un siècle, la place du leader est restée constante et incontestable. Le saxophoniste Kenny Garrett fut l'un des derniers partenaires de scène du célèbre Miles Davis et l'un des derniers jazz messengers du batteur Art Blakey. Il a donc eu le privilège d'observer de près la manière de diriger un orchestre par ces deux piliers historiques du XXe siècle.
I always make the comparison between Miles and Art Blakey because to me they were institutions.
Je fais souvent la comparaison entre Miles Davis et Art Blakey. Ce sont des institutions. Ils ont tous les deux permis à de jeunes musiciens de faire leurs premières armes pour apprendre à s'améliorer rapidement. On ne trouve plus cela aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle la musique évolue si lentement. Il n'y a pas assez de musiciens prêts à donner leur chance à de jeunes talents et dire « voilà ce que j'ai à vous proposer ». Je n'ai pas seulement appris la musique avec Miles et Art Blakey, j'ai surtout appris la vie, j'ai appris à grandir. C'est en suivant cette éducation que j'ai compris que le rap, c'était aussi de la musique, contrairement à ce que peuvent dire certains musiciens qui n'ont pas fait l'effort d'écouter, qui s'en sont même écartés. Le rap est une musique à part entière parce qu'elle repose sur des racines africaines bien précises.
Because it has a foundation, music has to have a foundation.
Comment reconnaît-on un vrai maestro, un vrai innovateur ? En transformant sa musicalité sur une période de 50 ans, Miles Davis a prouvé qu'il était un leader à l'écoute de ses contemporains. Cette acuité, cette exigence furent une véritable leçon pour Kenny Garrett, qui n'avait pas 30 ans lorsqu'il rencontra le maître. Il s'inquiète d'ailleurs aujourd'hui du peu de considération que les jeunes jazzmen portent à leurs aînés.
A lot of the younger musicians are getting signed to these contracts in the 18 and 19 and they don't have any experience.
Nombre de musiciens aujourd'hui sont signés à l'âge de 18-19 ans. Ils n'ont aucune expérience et personne ne peut leur en donner une. S'ils avaient eu le choix entre une grosse somme d'argent et aller jouer avec Art Blakey, ils auraient choisi le pactole. C'est difficile d'être musicien aujourd'hui. Personnellement, je voulais avoir une expérience réelle. J'aurais pu me faire connaître plus tôt et dire « Je suis Kenny Garrett », mais je voulais avoir plus de cordes à mon arc. Je suis donc resté avec Miles Davis le plus longtemps possible pour apprendre. Il ne faut jamais oublier qui sont les légendes du jazz. Miles et Art Blakey, Dizzy Gillespie, Woody Shaw, un grand innovateur de la trompette, malheureusement sous-estimé, Freddie Hubbard, immense trompettiste et tant d'autres. Je suis heureux qu'on s'intéresse à moi, mais ce n'est pas parce qu'un musicien est présent sur la scène jazz depuis de nombreuses années qu'il faut le déconsidérer. Le leader incontestable pour moi était Joe Anderson. L'autre jour, on me citait Branford Marsalis et Ralph Moore comme leader. Quoi ? Eux des leaders ? Joe Anderson était un leader. Ce n'est pas un manque de respect envers mes camarades, mais c'est la réalité. Branford et Ralph ne font que faire avancer l'évolution musicale à leur rythme. Nous sommes au stade de l'apprentissage, les gars. Quand nous atteindrons le niveau de nos aînés, nous serons des leaders. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir prétendre être quelqu'un.
Living to do before we can say we that.
Le fameux Joe Anderson, que Kenny Garrett citait en référence il y a quelques instants, fut l'un des saxophonistes éminents du label Blue Note. Disparu en 2001, il avait une profonde considération pour le statut de sideman, car lui-même avait accompagné des dizaines de célébrités avant d'être perçu comme un maestro. La multiplicité des orchestres aujourd'hui a malheureusement brouillé notre perception historique du jazz. Les virtuoses sont si nombreux que l'on banalise leur valeur dans l'épopée des musiques noires. L'un des leaders que l'on devrait célébrer de nos jours s'appelle David Murray. Compositeur, arrangeur, chef d'orchestre et saxophoniste de grand talent, il a toujours veillé à magnifier la culture noire. En jouant avec les racines de la diaspora africaine dans le monde, il a façonné pas à pas une œuvre passionnante. Et s'il est à nos yeux une figure majeure du 21e siècle, au même titre que les légendes d'antan, il n'oublie pas pour autant son apprentissage jadis aux côtés de ses héros.
Oh, I remember when I went on a tenor saxophone battle in 1978 at the Jazz Festival.
Je me souviendrai toujours de ce duel de saxophonistes en 1978 lors d'un festival de jazz. Il y avait là Eddie Lockjaw Davis, Illinois Jacket, Stan Getz, Archie Shepp et Hank Jones au piano, Max Roach à la batterie. Ce fut une bataille de sax ténor. Ornette Coleman et Sonny Rollins jouaient les troubles fêtes. Ce fut la première fois que je jouais avec des grands. Je pense m'en être sorti correctement. Dans une telle situation, on n'a pas le temps d'avoir le trac, on est poussé. C'est comme jouer au football, on est obligé de rentrer dans le match. Vous vous devez d'être au top et souvent, vous jouez mieux que vous ne l'auriez espéré. Vous atteignez le niveau supérieur.
Thank you.
Vous écoutez actuellement le grand orchestre de David Murray qui renoue avec les majestueuses formations d'autrefois auxquelles il imprime le métissage musical de notre temps. Cette vision ambitieuse et respectueuse du patrimoine révèle un artiste soucieux de son rôle social et artistique à une époque où l'apparence l'emporte sur le sens. Il n'est d'ailleurs pas le seul à noter les dérives de la société du spectacle. Le saxophoniste Steve Grossman, ancien partenaire de Miles Davis dans les années 70, a observé les mutations de l'industrie du disque et ses conséquences sur la vie des musiciens.
It's a strange thing. It seems to me like everything's backwards.
C'est étrange, j'ai l'impression aujourd'hui que l'on recule. On enregistre un album et ensuite on commence à tourner. Jadis, il y avait plus d'opportunités pour jouer. Il y avait encore des big bands quand j'ai commencé et j'ai joué dans quelques grands orchestres. Si vous vouliez jouer avec Miles Davis, Elvin Jones ou McCoy Tyner, il suffisait d'aller les voir et ils vous engageaient. Aujourd'hui, ça tourne un peu au ralenti. Voilà la grosse différence par rapport à hier. Avant, on jouait tous les soirs, parfois deux concerts par soir. On pouvait rester dans un club 3 ou 4 semaines ou voyager à travers l'Europe pendant 6 mois. Peut-être doit-on se présenter autrement aujourd'hui. À l'époque, il y avait des règles à respecter dans les orchestres. Il fallait savoir être au devant de la scène pour exister. À l'écoute de tous les témoignages entendus aujourd'hui, on note un regret persistant, le manque d'intérêt des jeunes pour l'histoire, le peu d'exigence et la méconnaissance de leurs racines culturelles et artistiques. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il était opportun de rappeler quelques vérités à travers les propos souvent pertinents des témoins du siècle. Et pour enfoncer le clou, faisons une haie d'honneur musicale à ces artisans discrets qui ont vécu les heures glorieuses du jazz au sein des big bands de la grande époque du swing. Je vous le disais en début d'émission, il y a 30 ans, le 26 avril 1984, le pianiste et chef d'orchestre noir américain Count Basie nous quittait, laissant derrière lui un héritage musical massif qui représente 50 ans de jazz et quelques milliers de concerts à travers la planète. Le Count Basie Orchestra fut aussi un lieu d'expérimentation, un laboratoire pour nombre de musiciens en devenir. Le tromboniste Fred Wesley, bien connu pour son travail aux côtés du célèbre James Brown, a également été l'un des partenaires de Count Basie. Mais ce ne fut pas une mince affaire. Il m'a fallu du temps pour obtenir ce job. Une fois dans l'orchestre, j'ai très vite compris que je ne m'exprimais pas au trombone comme un jazzman. Je jouais très fort, peut-être trop fort. Count Basie me lançait des regards noirs. Je sortais constamment de la rythmique jazz. Mais finalement, j'ai trouvé ma place. Cela vous prouve combien le travail et la persévérance finissent toujours par payer. J'avais mérité d'être un membre du Count Basie Orchestra. Mais bon sang, j'avais bossé pour atteindre ce but. C'était en 1978 au Japon. Fred Wesley, tromboniste de soul funk émérite, découvrait le jazz exigeant du Count Basie Orchestra, un big band légendaire, une institution qui a vu passer des dizaines de virtuoses, dont Lester Young, Quincy Jones, mais aussi des chanteurs et chanteuses devenus des stars, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Tony Bennett, Sammy Davis Jr., Sarah Vaughan, etc., etc. Dans les années 50, il était impensable de rater une prestation de cet orchestre imposant. Le regretté Cedar Walton, pianiste de grand talent, disparu le 19 août 2013, nous avait parlé de ses années de jeunesse lorsqu'à 20 ans, en 1955, il découvrait New York, la capitale du swing.
When I got to New York.
Quand je suis arrivé à New York, je suis allé directement au Birdland pour voir l'orchestre de Count Basie. Il était venu plusieurs fois dans mon Texas natal, mais j'étais trop jeune pour assister à un concert. J'étais encore un enfant à l'époque. J'ai longtemps ressenti cette frustration de ne pouvoir aller applaudir Count Basie qui livrait ses prestations dans des dancing interdits aux mineurs. Je connaissais ses disques par cœur et puis à 20 ans, j'ai enfin vu le Count Basie Orchestra et ce fut le choc. Je n'en croyez pas mes oreilles. C'était différent des enregistrements que je collectionnais à la maison. Certes, c'était un leader, mais à la différence de Duke Ellington, il composait beaucoup moins. Tout reposait sur les solistes. Quelle chance j'ai eu de voir ces géants du jazz en action.
Ellington, Basie, and so I'm very happy about that.
Cedar Walton, que nous écoutions à l'instant, a été l'un de ces sidemen indispensables à la vie d'un orchestre. Il fut notamment l'un des Jazz Messengers aux côtés du batteur Art Blackie. On peut également l'entendre sur l'album Giant Steps de John Coltrane. Il était donc un personnage, certes peu connu du grand public, mais essentiel dans l'épopée des musiques noires. Son profond respect pour la tradition insufflée par ses aînés était indéniable, et son amour pour la musique de Duke Ellington en était une preuve formelle.
Ellington, many times I saw.
J'ai souvent assisté à des concerts de Duke Ellington. Il était constamment en tournée. Il n'aimait pas les jours de repos. Il fallait qu'il joue chaque soir. J'ai même joué sur scène à ses côtés. Je faisais mon service militaire, j'avais 21 ans, et je lui ai demandé « Monsieur Ellington, me permettez-vous de plaquer quelques accords sur votre piano ?» Et à ma grande surprise, il a répondu « Bien sûr ». Il m'a juste conseillé de ne pas trop m'enthousiasmer. En d'autres mots, il me disait « Utilise ce clavier avec précaution, jeune homme ». L'un de mes amis s'est mis au micro, nous avons interprété « What is this thing called love ?» et les musiciens de l'orchestre ont fini par nous accompagner. J'étais sur un nuage. Au moment de quitter la scène, M. Ellington s'est approché de moi et m'a dit « Je t'avais pourtant demandé de jouer tout en délicatesse ». Je n'oublierai jamais cette expérience. C'était incroyable.
In his typical way, he said, I thought I told you to go easy. So I'll always remember this experience. It was great.
We'll be right back. Take the A Train, le grand classique de Duke Ellington, enregistré ici avec son orchestre le 26 novembre 1969 à Manchester dans le cadre de la tournée mondiale qui célébrait le 70e anniversaire de ce grand maestro. Merci à Nathalie Laporte pour la réalisation impeccablement sereine du jour. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.